Chapitre 11. Cérémonie d'ouverture. Augénor, assis dans son fauteuil roulant, regardait le ciel avec inquiétude. Vu de la fenêtre du château, on aurait pu croire que le petit carré de ciel bleu était strictement de la même dimension que la surface de la cour carrée, et qu'il aurait pu former un plafond en trompe-l'œil parfait. Le conseiller du château savait que ce n'était qu'une illusion d'optique. Il n'y a que les idiots pour croire que le soleil ne brille que pour eux, alors qu'il éclaire la terre entière. D'ailleurs, bientôt, ce fragile carré d'azur serait noyé de nuages gris. Bientôt, mais pas tout de suite. Du moins, Augénor l'espérait-il. Si la pluie pouvait avoir la bonne idée d'attendre avant de tomber, juste une heure ou deux, le temps que la cérémonie d'ouverture du tournoi de l'étoile soit terminée. La cour carrée du château était plus petite que celle de la pyramide, et bien entendu que le verger des Tuileries. 160 mètres sur 160, entièrement fermés par les bâtiments du château, à l'exception de 4 petits passages voûtés protégés par des grilles. Au-dessus des 4 ouvertures s'élevaient les ailes du château, hautes de 3 étages, d'ordinaire sagement décorées de dizaines de sculptures grises en l'honneur des rois ayant ordonné sa construction au fil des siècles. Pas ce jour-là. 3 des 4 ailes du château, correspondant aux chambres des 3 pavillons, étaient chacune décorées aux couleurs de chaque équipe. Pendues aux fenêtres, accrochées aux statues, des centaines de drapeaux coloraient les façades. Bleu pour le mur des singes, leur bannière représentait un fin trait de peinture en forme de S, ondulant autour d'un pinceau. Or pour les savants, dont l'étendard représentait un caducé, le symbole des médecins, un serpent enroulé autour d'un bâton. Rouge pour les soldats, le S étant figuré par une chaîne et le bâton, évidemment, par un bow. Les oriflammes qui volaient au vent offraient un spectacle magique aux enfants du château. Tous, debout dans la cour, agitaient les bannières de leur pavillon, ou frappaient le sol avec leurs bows, ou tapaient dans leurs mains. On riait, chantait et criait. Zizo, dans la foule aux côtés de Sabi, réalisa que c'était la première fois qu'il voyait les garçons et les filles du château aussi excités. Eux aussi savaient s'amuser. Une petite estrade avait été installée au centre de la cour, près de la fontaine ronde, et un plan incliné permettait à Augénor d'y monter, sans l'aide d'aucun autre enfant. C'est lui qui prononçait le premier discours. Zizo avait juste eu le temps de discuter rapidement avec Alix avant la cérémonie. Très tôt le matin, un conseil extraordinaire s'était tenu. Sans surprise, le conseil avait voté pour que Zizo reste prisonnier du château, sous la surveillance constante des soldats, même si Alix et Isalis s'étaient exprimés contre. La discussion avait été vive. Les reproches envers l'inconscience de la reine avaient fusé. Comment avait-elle pu oser s'aventurer, seule dans Paris, la nuit, avec un étranger? Mais les membres avaient dû écourter le débat car la cérémonie devait commencer. De la salle du conseil, on entendait déjà les cris des élèves des 3 pavillons qui se rassemblaient dans la cour carrée. Augénor énonça calmement les règles du tournoi, que les enfants du château écoutaient avec distraction, sans doute parce qu'ils les connaissaient déjà. Sabi se pencha vers l'oreille de Zizo pour qu'il la comprenne malgré le vacarme. « Je t'explique. Le dernier jour de l'été, l'équinoxe, pour parler comme les savants, correspond au début du tournoi. Pendant 3 mois, c'est l'entraînement, partout dans les pavillons et le verger des Tuileries. Puis, au solstice d'hiver, le jour de la veillée du sanctuaire, ça tu connais, chaque pavillon va désigner ses candidats. Il y aura 10 candidats en tout. Chaque pavillon doit en désigner 3. Ils seront leurs champions. Tu captes ?»
Zizo captait.
Augénor lisait le long règlement. Il en était à l'article 13. Il avait beau essayer de parler plus fort, personne ne l'écoutait. Parfois, un groupe d'enfants de l'un des pavillons se mettait à chanter, et un autre groupe essayait de les imiter en chantant plus fort ou en frappant avec plus de force leurs bows sur le sol pavé. Jamais Zizo n'avait vu un tel bazar. Les élèves du château étaient d'ordinaire si sages et disciplinés. « Les champions de chaque pavillon, » continuait Sabi, « ont ensuite 3 mois pour se préparer jusqu'au tournoi qui a lieu le jour de l'équinoxe de mars, celui qui annonce le printemps. L'épreuve est préparée en grand secret par des arbitres désignés par les pavillons, un dans chaque classe, et elle comporte 5 disciplines, la vitesse, la force, l'adresse, la ruse et le courage. 5 disciplines, 5 médailles, Et le pavillon gagnant est celui qui remporte le plus de médailles. Tu vois un peu le délire ?
Zizo remarquait que parmi tous les enfants du château, Sabi était la moins passionnée par le tournoi, comme si elle trouvait parfaitement ridicule toute cette agitation. Il se demanda aussi où Alix était passée.
« De toute façon, » ajouta Sabi, « ce sont les soldats qui gagnent tous les ans. Les trois médailles de la vitesse, la force et celle du courage ne leur échappent jamais. Parfois, les savants gagnent celle de la ruse, parfois les singes celle de l'adresse. Et encore, les trois dernières années, les soldats ont tout raflé. »
Eugénor termina la lecture de l'article 27, le dernier. Plus que jamais, la foule s'agitait. Les enfants de chaque pavillon se regroupaient, serrés. Zizo se souvint de bribes de conversation. Alix avait remporté plusieurs médailles à ce tournoi l'année d'avant et, grâce à ses victoires, elle était devenue populaire et avait été élue reine.
J'appelle maintenant,
fit Eugénor, très digne, et tout de suite, un impressionnant silence fut respecté dans la cour carrée,
le délégué du pavillon des savants.
Liu s'avança, encadré par deux autres savants, Valère et Moebia, portant la bannière couleur or de leur classe. Tous les élèves du pavillon des savants explosèrent de joie, crièrent, sifflèrent, lancèrent des confettis d'or, agitèrent leurs bannières, alors que les enfants des deux autres pavillons applaudissaient respectueusement. Sabi désigna l'un d'eux, tout petit, chétif, qui semblait près de s'écrouler à chaque pas sous le poids du grand drapeau.
« Celui de gauche, qui porte le drapeau plus grand que lui, » dit-elle, « c'est Valère, le meilleur en histoire de tout le château. Il est amoureux de moi, je peux lui demander ce que je veux. Dommage qu'il soit nain. »
L'année dernière, quelles épreuves a gagné Alix ? Demanda Zizo, peu passionné par les aventures sentimentales de Sabi.
Et maintenant, fit la voix forte d'Eugénor, j'appelle le délégué du pavillon des singes.
Isalis se tenait plus droite que jamais. Son chignon n'avait jamais semblé aussi haut perché. Olympe et Minerva portaient le drapeau bleu coordonné aux papillons turquoise dans leurs cheveux, également coiffés en un strict chignon et à la teinture azur de leur robe.
Trois filles, pesta Sabi. Olympe et Minerva, les deux chouchoutes de la mère Guenon. Jamais Isalis n'autorise un garçon à porter le drapeau. Quelle peste celle-là!
Quelles épreuves a gagné Alix? Insista Zizo. Les élèves du pavillon des singes exprimèrent leur joie avec toutefois moins d'intensité que les supporters du pavillon précédent.
Et j'appelle enfin le délégué du pavillon des soldats.
Un tonnerre de hurrah retentit, semblant faire vibrer les murs de la cour carrée et soulever les drapeaux aux fenêtres. Les beaux des enfants soldats frappaient frénétiquement le sol, donnant l'illusion qu'ils tremblaient. Jean d'Arc s'avança, d'un impeccable pas martial, encadré au millimètre près par Novak et Diana, un géant et une géante, qui portaient le drapeau comme s'il s'agissait d'une plume.
« Tu ne trouves pas que Novak est canon ?» cria Sabi en devenant toute rouge. « Je suis certaine qu'il va être désigné candidat et qu'il va gagner le tournoi. Une bande de mecs, on dirait Achille !»
Zizo, qui se souvenait des coups de beau administrés par ce même Novak, quelques heures auparavant, au lever du jour, sur la butte Montmartre, ne partageait pas tout à fait le même avis et évita de faire remarquer à Sabi qu'il était responsable de l'hématome qui gonflait la paupière droite du porteur de drapeau aux grands yeux bleus. Sabi continuait de crier à son oreille, mais Zizo parvenait à peine à l'entendre dans la cohue.
« Tu me demandais quoi déjà ? Ah oui ! Quelles épreuves a gagné Alix ? Pas la vitesse ni la force, tu t'en doutes ! C'est pas une crevette comme notre reine qui pourrait rivaliser avec les demi-dieux ! »
Elle dévora encore le beau Novak des yeux.
« Surtout, ne me demande pas comment elle s'est débrouillée, elle a gagné les épreuves de ruse, d'adresse et de courage. Elle ne cesse de me répéter depuis 3 mois que c'est un accident. » Un pur coup de bol. Et tu sais quoi? Je la crois!
Les trois délégués se tenaient sur l'estrade. Derrière eux, les 6 porteurs agitaient les drapeaux. Tous les enfants chantaient dans une joyeuse cacophonie. Quelques gouttes de pluie commencèrent à tomber, puis tous, sur l'estrade, s'écartèrent. Alix venait de faire son entrée. Zizo frissonna en la voyant, et plus encore en remarquant qu'elle portait sur la tête la couronne de roses qu'il lui avait cueillie et tressée dans le verger. Les élèves des trois pavillons se turent.
Le silence fut un instant plus impressionnant que l'euphorie qui l'avait précédé. Alix sourit, et de sa petite voix, que tout le monde, attentif quelques secondes, entendit, elle annonça
« Je déclare le 6e tournoi de l'étoile ouvert. »
Un tonnerre de cris emplit la cour carrée. Une pluie de confettis tomba des fenêtres les plus hautes. Zizo se laissa lui aussi porter par la liesse générale. Même si le tipi lui manquait, même s'il avait raté la grande battue où chaque année il courait aux côtés d'Agnel sans jamais rapporter le moindre gibier, même s'il n'avait pas vu s'enfuir, apeuré, sans qu'il comprenne ce que signifiait le mot « liberté », les bébés animaux perdus, Zizo se laissait gagner par cette ambiance de fête et de folie. Parce qu'au fond de lui, il adorait cette cérémonie, ses drapeaux, ses épreuves, ce tournoi. Alix lui faisait battre le cœur comme jamais. Il devait se l'avouer, en regardant avec envie les porteurs de drapeaux, Alix trônant sur son estrade, ses trois médailles au cou, il aurait rêvé d'y participer. La pluie tombait maintenant drue sur la cour carrée. Pourtant, les enfants continuaient de chanter et de jouer. Ils suçaient des lollipops, chacune aux couleurs de leur pavillon. Lavandes et violettes pour les singes, miel et pommes-poires pour les savants, cerises et fraises pour les soldats. Sur l'estrade, Augénor fit pivoter son fauteuil pour se tourner vers Alix.
« Il faut que je te parle. »« Parle-moi, » fit Alix, cassante, en se penchant vers son conseiller, tout en retenant d'une main ses médailles et sa couronne. « Personne ne nous entend. »
C'était vrai, la cour était trop bruyante.
« Tu as commis une faute cette nuit. Une faute grave. Tu as désobéi au vote du conseil. Tu as mis en danger le château. »«
En danger ?»«
Tu as peut-être eu la majorité au conseil, Augénor. » Mais tu ne me forceras pas à penser comme toi. Vous avez peut-être de meilleures notes que moi, toi, Liu et Jeanne d'Arc. Je suis sûrement bien moins intelligente que vous, mais vous ne m'empêcherez pas de penser que respecter les commandements de Marie-Lune, ce n'est pas s'enfermer à double tour. C'est sortir et essayer de communiquer avec les autres enfants. Je me fiche de vos puissantes réflexions. C'est mon intuition. Et puis, je ne suis pas seul. Isalis a voté comme moi.
« Pour des motifs opposés aux tiens, » fit calmement Augénor. « Tu le sais bien. Elle veut renvoyer Zizomis chez lui parce qu'elle pense qu'on doit être chacun chez soi. Tu vois, Alix, tu es la seule à penser que divulguer nos secrets ne nous met pas en danger. C'est de l'irresponsabilité. Ok, j'ai pigé. N'empêche que je suis reine et tu ne m'interdiras pas de m'exprimer, même si je n'ai pas la majorité.
Seulement pour quelques mois. » « Alix, » précisa Augénor.
« Justement, je servirai au moins à ça, convaincre le maximum de monde pendant le temps qu'il me reste. On a passé l'âge de se barricader. »
Elle observa les quatre voûtes ouvrant la cour carrée.
« Faire sauter les grilles, ce n'est pas le moment, » déclara une voix dans son dos.
« Quoi ?»
C'était Jeanne d'Arc, le délégué du pavillon des soldats. Il avait écouté toute leur conversation.
Majesté, je crains que le moment soit inapproprié pour expérimenter des négociations avec les enfants de la tour.
Pourquoi ?
Augénor avait l'air lui aussi étonné.
Idriss et Django, nos espions postés dans le métro, viennent de m'informer. Ils ont repéré dans les parcs, dans les allées boisées, dans les forêts, partout, des animaux anormalement malades. Leurs bébés, leurs œufs sont comme empoisonnés. L'épidémie semble progresser très vite.
Alix et Augénor demeurèrent silencieux.
Les enfants de la tour n'auront bientôt plus rien à manger, ajouta Jeanne d'Arc.
Alix savait que le système alimentaire du château, les récoltes, les provisions, étaient prévus pour nourrir avec une grande précision les trois pavillons, mais guère plus de bouches.
Que proposes-tu ? Demanda Augénor.
Alix s'en voulait de rester muette dans un tel instant. Son complexe d'infériorité face aux esprits si rapides des autres membres du conseil, chaque fois, la paralysait.
« Deux choses, » fit Jeanne d'Arc. « D'abord, se préparer à nous défendre. Ce sera le rôle de mon pavillon. Et ensuite, comprendre ce fléau. Ce sera le rôle de celui des savants.
Je propose d'envoyer une expédition dans la forêt de Boulogne. L'épidémie semble y être née. Novak pourrait la diriger, je lui fournirai mes meilleurs éléments pour l'escorter. »
Novak était un garçon intelligent et courageux, mais prétentieux et beaucoup trop belliqueux.
« Non !» réagit Alix, fier de retrouver un peu d'autorité. « C'est Solario qui commandera l'expédition. »«
Pourquoi Solario, Majesté ?» s'étonna Jeanne d'Arc.
Solario était un savant lunaire, spécialisé dans les sciences physiques. Il avait peu le profil d'un aventurier. « Lunella restera là, » expliqua Alix, « et ainsi nous aurons un moyen de communiquer. »
Lunella, la sœur jumelle de Solario, étudiait elle aussi au pavillon des savants, mais elle préférait la chimie et inventait toutes sortes de savons, crèmes et shampoings. Ils étaient les seuls jumeaux du château. Et parfois, d'une façon incroyable, d'un pavillon à l'autre, par la pensée, ils parvenaient à communiquer. Un peu comme avec un téléphone, ces appareils anciens étudiés par les savants dans les cours de technologie et qui, comme les armes et la viande, avaient été interdits par Marie-Lune, le 12e commandement.
Augénor allait protester, mais Jeanne d'Arc s'inclina.
« Je crois que c'est une excellente idée, Majesté. »
Dans la cour, la pluie redoublait. Entre les pavés coulaient de minces ruisseaux bruns, mélange cacadois de confettis bleus, or et rouge. Aux fenêtres, les drapeaux pendaient, trempés, lourds, prêts à céder. Même les statues paraissaient fatiguées de les supporter. Les délégués levèrent les yeux vers le ciel. Derrière le rideau de nuages qui s'accrochait à la flèche du tipi, le soleil de fer disparaissait. Les jours ensoleillés s'en allaient. L'automne les remplaçait.